Bien, donc je suis avec Aurélien Dubuisson à l'occasion d'une soirée au LAG consacrée à Action Directe. Peut-être avant toute chose, Aurélien, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs?
Je suis Aurélien Dubuisson, je suis actuellement doctorant à Sciences Po Paris en histoire et je suis aussi enseignant à l'Université de Lille.
Tu viens de sortir un livre, hein, Action Directe, les premières années. Alors, quand on pense à Action Directe, quand on évoque Action Directe, en général aujourd'hui, beaucoup de gens retiennent le dernier noyau, l'élimination de René Audran et de Georges Besse. Et tout ça a occulté l'ensemble des activités d'Action Directe, et notamment les premières années. Et dans ton livre, tu évoques Action Directe comme une constellation. Y compris, on a un témoignage également dans ton livre, hein, qui évoque le fait que Action Directe, c'était pas une organisation, mais une coordination. Est-ce que tu peux justement revenir sur cette question, Action Directe, constellation,
Tout à fait. Donc, l'idée, effectivement, c'était de se dégager des clichés qu'on pouvait avoir de cette organisation et des clichés qui étaient largement tributaires des exécutions, pardon, de René Audran et de Georges Besse. Et donc, de revenir sur les premières années du groupe. Donc, de 1979, date à laquelle, de 1977, pardon, date à laquelle des militants commencent à penser la formation d'Action Directe. 1979, le premier attentat, jusqu'en 1982, date à laquelle surviennent un certain nombre de scissions dans le groupe. Et donc, à partir de ce moment-là, démarre une nouvelle histoire, jusqu'en 87, l'arrestation de Nathalie Ménigon, Jean-Marc Rouillan, Georges Cipriani et Joël Aubron. La première période de l'organisation, donc de 77 à 82, c'est une période au cours de laquelle on retrouve de nombreux militants, disons en tout cas plus d'une centaine de militants. Certaines personnes considèrent même qu'il y aurait eu à peu près 200 à 300 militants dans cette organisation, répartis sur tout le territoire français. Et donc des militants aux trajectoires multiples. Et donc c'était l'idée que je voulais faire émerger, c'était de montrer qu'il n'y avait pas un profil type de militants dans Action Directe qui permettait de faire la synthèse de cette histoire, mais de démontrer que justement, Action Directe, à son origine, c'est de nombreux militants issus d'histoires différentes qui se réunissent pour prolonger l'action armée sur le territoire français après que les deux organisations d'extrême gauche les plus influentes des années 70, la Ligue communiste et la gauche prolétarienne, se soient soit dissoutes pour la Ligue communiste ou autodissoutes pour la gauche prolétarienne. Alors effectivement, j'utilise le terme de constellation parce que bon, alors c'est un terme que j'emprunte à un ouvrage qui a été publié récemment, qui se donne pour objectif de démontrer les trajectoires multiples des militants d'aujourd'hui. Donc certains issus de la ZAD, de l'extrême gauche actuelle, certains issus de la ZAD, certains issus du mouvement contre le CPE, d'autres issus des quartiers populaires. Donc j'ai emprunté ce terme de constellation et le concept de constellation pour analyser les trajectoires multiples des militants qui se retrouvent à l'origine du projet Action Directe. Et donc effectivement, Action Directe, en tout cas dans ses premières années, on ne peut pas réduire ce groupe à quatre militants. Mais à un ensemble de militants qui ont tous des trajectoires personnelles bien particulières et qui, au final, constituent l'organisation.
Tu as évoqué les deux principales organisations, hein. Dans ton livre, tu évoques également les GARI, les NAPAP, les Brigades internationales. On est dans la dizaine d'années qui a suivi mai 68. Il y a vraiment eu une espèce d'ébullition durant ces années.
Alors oui, effectivement, bon, le phénomène n'est pas comparable, par exemple, avec ce qui s'est passé en Italie, où le fait armé était beaucoup plus présent. Il n'empêche que on a tendance effectivement à occulter la question de la violence politique qui s'est posée après 68 en France et qui a été soutenue par un certain nombre d'organisations de l'après 68. J'ai évoqué précédemment, par exemple, la gauche prolétarienne, qui est l'organisation en France qui constitue le premier groupe armé de l'après 68, qui donc va commettre les premières actions armées de l'après 68 en France. Donc effectivement, il y a une véritable ébullition, il y a des manifestations violentes qui sont très récurrentes. Bon, la plus connue, c'est le 21 juin 1973, une manifestation antifasciste à Paris où 2000 personnes environ casqués, armés de barres de fer et de cocktails Molotov, attaquent la police et attaquent un meeting d'ordre nouveau, qui est une organisation fasciste de l'époque. Donc effectivement, c'est une période qui est propice à l'émergence d'un groupe comme Action Directe.
Pour cette émergence, hein, tu viens de citer le contexte international. Donc parmi les déclencheurs, hein, et ça apparaît aussi dans les témoignages dans ton livre, dans les déclencheurs, il y a ce qui s'est passé aussi en Allemagne, hein, avec la RAF, la Rote Armee Fraktion, et notamment la grève de la faim qui a conduit au décès de Holger Mainz. Ça a été important, tout ce contexte?
Oui, je pense. D'une part, le contexte international joue un rôle qui est évident à cette époque. Bon, je viens de parler des Brigades Rouges, je viens de parler de l'Italie de manière générale, pas que des Brigades Rouges, mais tout un tas de groupes qui émergent durant les années 70 et qui vont commettre des attentats et qui vont, dans certains cas, mettre l'État dans une position, en tout cas, vont mettre en difficulté l'État. Et bon, après, effectivement, tu viens de citer le cas de l'Allemagne. C'est un cas qui, effectivement, va influencer les militants français, et notamment de par la répression qui va s'abattre sur les militants de la première génération de la RAF, qui, pour certains, vont mourir de grève de la faim en prison. Les images à l'époque circulent, les photos des militants morts suite à leur grève de la faim circulent et vont marquer un certain nombre de militants et vont les pousser à se radicaliser. Tu parles de l'Allemagne, mais faudrait aussi parler du coup d'État de Pinochet au Chili en 73, qui va influencer un certain nombre de militants à prendre les armes, considérant que, de toute manière, la voie électorale, c'est une impasse, que si la gauche prend le pouvoir, la droite fomentera un coup d'État, et que le seul recours, c'est de prendre les armes et de faire, en gros, la révolution. Et donc, effectivement, le contexte international va jouer un rôle qui est évident durant cette période dans la constitution de certains groupes armés en France, et notamment du groupe Action Directe.
Puis on pourrait aussi citer, hein, puisque tu parles de grève de la faim qui finissent mal, l'Irlande.
Alors l'Irlande, ça va intervenir notamment un peu plus tardivement avec Bobby Sands, et ça va mettre en porte-à-faux le pouvoir socialiste, parce qu'à cette époque-là, certains militants d'Action Directe seront en prison, entameront une grève de la faim, et Mitterrand, voulant pas reproduire ce qu'a fait Thatcher en laissant mourir certains Irlandais en prison, sera contraint, c'est pas l'unique raison, mais c'est l'une des raisons qu'il contraindra à libérer l'ensemble des militants d'Action Directe en 81.
Alors dans la genèse d'Action Directe, il y a deux éléments, hein, que tu mets en avant dans le livre que tu viens d'écrire. Le premier élément, c'est ce qui s'est passé en prison, autrement dit les aspects carcéraux. Et puis parallèlement à ça, peut-être une bonne réception d'Action Directe dans l'opinion publique. Est-ce que tu peux réévoquer ces deux points?
Pour la prison, c'est évidemment, pour la deuxième période, enfin à partir de 87, c'est évidemment central. Et effectivement, à l'origine d'Action Directe, la prison est centrale, parce que tout un tas de militants qui vont fonder Action Directe se retrouvent en prison et commencent à discuter de ce projet, du projet de constituer, de former un groupe armé tel qu'Action Directe. En 80, de 80 à 81, là aussi, la prison va être centrale, parce que de nombreux militants vont se retrouver en prison. Il va y avoir un mouvement de mobilisation en vue d'obtenir la libération de tout le monde. Et là aussi, ça va amener un certain nombre de personnes à s'intéresser à Action Directe et à militer auprès des militants d'Action Directe, du moins avec les militants d'Action Directe. Donc effectivement, la prison, elle est centrale à cette époque. Et puis bon, en prison, on ne retrouve pas uniquement des militants d'Action Directe, on retrouve tout un tas de prisonniers politiques, certains prisonniers des luttes, par exemple, antinucléaires, des autonomes, des insoumis, pas Mélenchon, hein, mais des personnes qui n'ont pas fait le service militaire et qui ont refusé de faire le service militaire et donc qui se retrouvent en prison. Et puis on retrouve aussi de ce qu'on appellerait des bandits sociaux, comme par exemple Charlie Bauer ou Pierre Goldman, qui sont des délinquants de droit commun, mais qui en même temps sont très politisés et donc qui potentiellement sont réceptifs au discours de portés par certains militants comme ceux d'Action Directe. Effectivement, la prison représente un creuset pour ces militants, un creuset idéologique. Alors effectivement, sur la réception des initiatives du groupe, du moins pour sa première période jusqu'en 82, Ça peut paraître assez étrange, mais le groupe... Alors déjà, d'une part, dans les médias, les attentats sont plutôt traités positivement. Alors, pas tout le temps, mais par exemple, on va pas forcément les taxer de terroristes, mais on va insister sur la dimension politique des opérations qui seront menées par Action Directe. On va les qualifier beaucoup plus souvent de militants, de révolutionnaires, et beaucoup moins souvent de criminels ou de terroristes. Les médias, clairement, d'une manière générale, hein, on pourra toujours trouver des exceptions... qui diront le contraire, mais il n'empêche que de manière générale, les médias vont traiter beaucoup plus positivement l'initiative d'Action Directe. Et d'autre part, et je pense que c'est lié, les militants d'Action Directe, au moins dans un premier temps, tentent de s'inscrire dans le mouvement social, dans la contestation sociale, et ont donc des relations avec certains syndicalistes, par exemple, très radicaux, comme à Longwy, par exemple. À Longwy, en gros, en Lorraine, il y a des grèves qui éclatent suite aux restructurations sidérurgiques. Il y a des noyaux militants, notamment des syndicalistes, qui vont commencer à apparaître, à se radicaliser, à radicaliser leurs pratiques. Et les militants d'Action Directe vont commencer à entretenir des relations avec eux, à les soutenir politiquement, logistiquement et dans la pratique, à faire des choses avec eux. Et donc, effectivement, il y a des liens. C'est-à-dire que il y a des liens qui font que, bah, par exemple, ces syndicalistes de Longwy, qui étaient en grève fin 70, début 80, lorsque les militants d'Action Directe seront en prison et essaieront d'obtenir leur libération en 81, vont se mobiliser, donc les sidérurgistes de Longwy vont se mobiliser pour et faire pression sur le pouvoir pour que Mitterrand libère l'ensemble des prisonniers d'Action Directe. C'est difficilement envisageable de nos jours, surtout lorsqu'on observe les divisions qui caractérisent les mouvements sociaux actuels. Chacun défile dans son cortège et il est très difficile d'être solidaire des uns des autres. Et bien là, il n'empêche que des syndicalistes, notamment des syndicalistes CGT, soutenaient à cette époque-là, bon, pas tous, mais soutenaient les militants d'Action Directe qui étaient en prison et se sont mobilisés pour obtenir leur libération.
D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une des traces qui reste, une des traces erronées sans doute, hein, qui reste, c'est le fait que Action Directe était coupée du mouvement social. C'est sans doute une grave erreur.
Ben, en tout cas, pour cette période, jusqu'en 82, c'est une erreur, ouais, c'est évident. Leur objectif, c'est justement de s'inscrire dans le mouvement social. Et donc, ils participent très régulièrement à des manifestations, s'inscrivent pleinement dans le mouvement social en soutenant logistiquement et dans la pratique certains grévistes, certaines personnes qui sont mobilisées en vue, par exemple, de défendre leur emploi. Et, et les effets s'en font ressentir lorsque, justement, ils sont en prison et que ces personnes se mobilisent pour obtenir leur libération. Donc, oui, l'image d'un groupe qui serait absolument coupé de la base du mouvement social, pour cette période-là, c'est quelque chose de tout à fait erroné, effectivement.
Pour terminer cet entretien, je voudrais évoquer les témoignages, hein, les personnes que tu fais parler, hein, dans ton livre. Enfin, j'avais deux questions, hein. Bon, la première, c'est le premier témoignage, hein, c'est un Mao de l'ENS qui a vécu à Lens. Alors justement, dans le bassin minier, quelle trace d'Action Directe ?
En gros, Action Directe hérite en partie des structures de la gauche prolétarienne qui était très présente dans le bassin minier, et notamment en région de Lens. Bon, il y a deux choses. D'une part, le groupe va commencer à mener des opérations logistiques, notamment des braquages, pour alimenter en fond l'organisation. Et il y a aussi un autre lieu qui est central, c'est la MOUF, qui est un café de Rangicourt, un café qui appartient à, enfin, qui appartenait à Georgette Tournel et à Joseph Tournel. Joseph Tournel qui était un ancien militant de la gauche prolétarienne, et donc ils mettent à disposition ce café aux militants d'Action Directe pour qu'ils puissent organiser des réunions, des discussions politiques. Et donc effectivement, le Nord-Pas-de-Calais à cette époque-là, c'est une région centrale, mais essentiellement pour des questions politiques et puis pour des questions logistiques.
Le deuxième témoignage, c'est la seule femme. Pourquoi l'avoir anonymisée ?
Tu veux dire qu'on la reconnaît, c'est ça ?
Oui, je pense qu'on la reconnaît, effectivement.
Alors, en fait, c'est un choix. Alors, le choix de l'anonymisation, il est simple. Il n'est pas lié à des questions judiciaires, parce que bon, c'est la première chose qu'on serait tenté de penser, mais en fait, c'est pas du tout lié à ça. C'est parce que dans les entretiens, donc il y a cinq entretiens dans le livre, et dans ces cinq entretiens, il y a des militants très connus de cette organisation, et d'autres qui ne le sont pas du tout. D'ailleurs, il y en a deux qui n'avaient absolument jamais témoigné nulle part sur cette période. Du coup, en rendant anonymes les témoignages, l'idée c'était de ne pas donner, d'accorder plus de crédit à des militants plus connus et au contraire d'en accorder moins à des militants qui n'étaient pas du tout connus et qui étaient restés en nombre jusqu'ici. Donc c'est une manière de mettre à peu près tout le monde sur un pied d'égalité.
Peut-être rappeler ton livre, donc Action directe, les premières années, c'est à Libertalia, aux éditions Libertalia, donc un livre d'Aurélien Dubuisson, pas cher du tout et qui se livre très facilement.